Chers amis, bonjour. Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». Vous vous souvenez de ce texte dans l'Évangile de Matthieu. Jésus a donc de son vivant parlé de l'édification de l'Église comme d'une réalité future. Par cette promesse, Jésus venait de préciser son ambition, le vrai caractère de sa mission, fonder son Église, c'est-à-dire une communauté spéciale de personnes qui seraient marquées de son sceau et qui porteraient son nom. Dans la Bible, il est impossible de dissocier la mission du Christ de l'Église. À cet effet, l'apôtre Paul dira que l'Église de Christ est le corps du Christ, établissant ainsi, on ne peut plus efficacement, l'unité parfaite de la personne avec son œuvre. Dans l'Esprit du Christ, il ne pouvait y avoir qu'une seule Église. Comme il y a un seul corps et un seul Esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême et un seul Dieu. Or, le monde compte aujourd'hui plusieurs centaines d'églises ou de communautés, rassemblant environ 916 millions de personnes qui se réclament du Christ. Que s'est-il passé? Le Christ a-t-il failli à sa tâche? A-t-il donné des commandements contradictoires? Avant de tenter de répondre à ces questions, envisageons d'abord le sujet de l'Église, dans son contexte strictement biblique. Nous avons dit plus haut que dans l'Esprit du Christ, l'Église est une communauté spéciale. C'est vrai, parce que l'Église est un peuple qui a cette particularité d'être la propriété du Christ et un peuple qui est conscient de cette particularité. Dans la Bible, l'Église est constituée en assemblées locales, indépendantes, ayant chacune son organisation autonome. Les chefs spirituels de ces assemblées sont tantôt appelés anciens, tantôt évêques ou pasteurs. Le chef suprême demeure le Christ qui parle à travers ses apôtres. C'est au pasteur de l'une de ces assemblées, en l'occurrence l'église d'Éphèse, que l'apôtre Paul dira « Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang, car tel fut le cri, le prix de cette acquisition, son propre sang. » C'est à juste titre, et toujours dans cette même ligne de pensée, que l'apôtre Paul rappellera aux chrétiens de la ville de Corinthe leur véritable appartenance. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » L'Église est donc l'assemblée de ceux qui sont entrés en contact avec le sang de Christ. Ce sont ceux qui ont accepté l'intervention de Christ dans leur vie, en répondant à son invitation. Les chrétiens d'Éphèse se verront instamment rappeler que Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Il faut se rendre à cette pénible évidence que le monde a étouffé dans son bruit et ses théories trompeuses, ses caractéristiques de l'Église. Pour trop de personnes, l'Église n'est qu'un bâtiment qui domine tous les autres. Pour d'autres, moins superficiels dans leur conception, l'Église, c'est l'assemblée des bonnes gens. Pour d'autres encore, l'Église, c'est le clergé avec ses cérémonies, ses fastes et ses habits spéciaux. Pour l'apôtre Pierre, dont le Nouveau Testament renferme deux lettres, l'Église, c'est vous qui avez été rachetés par le sang précieux de Jésus. C'est vous qui avez purifié vos âmes en obéissant à la vérité. C'est vous qui avez été régénérés par la parole vivante et permanente de Dieu. C'est vous enfin qui êtes une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. L'Église de Christ est un peuple qui a conscience d'appartenir à Christ et à lui seul. C'est pourquoi l'apôtre Paul s'insurge contre l'assemblée des Corinthiens, dont les membres se réclamaient qui de Paul, qui de Pierre, qui d'Apollos, créant ainsi une atmosphère de division insidieuse. Avec une indignation qui transparaît nettement, il leur écrira « Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé ?» Non pas que les chrétiens de Corinthe ne reconnaissaient plus l'autorité incontestable de Christ, mais ils mettaient leur gloire particulière en celui qui les avait soit enseigné, soit exhorté, soit baptisé. Notre christianisme ne mérite-t-il pas la même explosion d'exaspération? Lorsqu'on sait que l'un se réclame de Calvin, l'autre de Wesley, un troisième de Luther et de quelque autre encore. En cela, nous manifestons exactement le même esprit de division et de parti pris que les Corinthiens. Accordons à ces hommes que nous avons nommés, parmi tant d'autres, le mérite et le crédit qui leur est dû, et qu'ils auraient d'ailleurs été les premiers à refuser. Ils ont influencé leur époque, réveillé le monde endormi et déterminé de grands changements. Mais gardons-nous d'hypertrophier ce mérite. C'est Jésus qui sauve. Et ils l'ont assez affirmé. D'autant plus que ces hommes n'étaient pas infaillibles. Qui nous dit qu'ils n'auraient pas modifié tel ou tel autre point de leur doctrine s'ils avaient vécu 30 ou 50 années de plus? Le fait est que les hommes meurent, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Pourquoi devrions-nous nous arrêter avec eux là où la mort a mis un terme à leurs études et à leurs méditations? Il faut continuer de grandir dans la connaissance de notre Seigneur. Par une fréquentation assidue et personnelle des Saintes Écritures, qui seules peuvent nous indiquer le chemin qui mène à Dieu. Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». Au premier siècle, il y avait une Église du Christ qui trouvait son expression visible dans les centaines d'assemblées disséminées dans l'Empire romain. C'est d'ailleurs sur une note de triomphe que l'apôtre Paul dira dans une de ses lettres « Toutes les Églises de Christ vous saluent ». De nombreuses personnes voudraient appartenir à l'Église de Jésus-Christ. Malheureusement, leur désir se réduit à la recherche d'une Église parmi tant d'autres. Elles voudraient pourtant s'intégrer. Mais de quel côté se dirigeront-elles? Choisiront-elles la plus grande, la plus riche? Se tourneront-elles vers la plus discrète, la plus sobre? Ils procéderont ainsi par élimination successive, ce qui est une méthode décourageante, par trop mathématique, aux résultats exaspérants. De plus, elle trahit une mauvaise notion de la vraie nature de l'Église. Car sur quels critères se base-t-on pour éliminer tel ou tel groupe? L'éloquence d'un orateur? La chaleur d'une société? La position géographique du lieu de réunion? Il n'entre pas dans le cadre de ce thème de discuter des causes diverses qui provoquent les divisions et les sectes. Nous voulons surtout montrer qu'appartenir à l'Église ne signifie pas essentiellement s'intégrer à une communauté donnée, dans un lieu donné. Appartenir à l'Église, c'est d'abord se convertir à Christ. C'est alors le Seigneur lui-même qui intègre le nouveau chrétien à son Église, car nous avons vu que l'Église est l'assemblée des sauvés. Nous savons en outre que l'homme ne peut être sauvé que par le sang du Christ, rançon que ce dernier a payé pour nous délivrer de la condamnation du péché. C'est ainsi que le Christ a accepté de devenir malédiction pour nous. C'est lui qui subit notre condamnation, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, comme le rappelle le prophète Ésaïe. Obéir à l'Évangile consiste d'abord à tourner le dos à notre vie ancienne, c'est le repentir, et à nous associer à la mort et à la résurrection du Christ. Mais comment? Dans l'acte du baptême essentiellement, et par une vie dont le sens, c'est-à-dire la direction et la signification, est désormais éclairé par en haut. Cette vérité est admirablement exprimée dans l'Épître aux Colossiens. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Aux Galates, il rappelle que vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Par leur incorporation au Christ dans l'acte du baptême, ils s'étaient trouvés intégrés à l'Église. Paul rappellera souvent à ses destinataires ce moment décisif de leur conversion et de leur engagement. Après avoir fait ainsi le point sur l'Église, telle qu'elle nous apparaît dans les pages de la Bible, nous sommes plus à même de comprendre le pourquoi du commandement de l'apôtre Pierre à ceux qui lui demandaient, angoissés, « Que faut-il que nous fassions ?»« Repentez-vous, leur ordonna-t-il, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Le paragraphe ajoute que ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ce dernier verset démontre bien que c'est à Dieu que revient l'initiative d'intégrer le nouveau converti à l'Église. L'homme, lui, en fils prodigue, ne peut que se jeter dans les bras du Père, qui n'attend que cela pour lui faire grâce de toutes ses offenses. En l'occurrence, ce dernier paragraphe résume la naissance de l'Église du Christ. La promesse « Je bâtirai mon Église » fut accomplie en ce jour-là. Or, nous pouvons tous faire partie de cette même Église, à l'exemple des premiers chrétiens, en obéissant comme eux au même Évangile. Partout où la parole de Dieu sera semée sans mélange, partout où le conseil de Dieu sera annoncé sans en rien cacher, ces généreuses semailles produiront leur moisson naturelle de chrétiens, et le Seigneur les ajoutera à son Église.